il faut le progrès, il faut pas la pagaille.
Notre village au fil du temps. Un épisode proposé par Jean-Louis Taché. Aujourd'hui, Fontenay-le-Marmion durant la Seconde Guerre mondiale. Deuxième épisode, la libération. Bonjour Jean-Louis. Alors, la libération à Fontenay, vaste sujet.
Bonjour. La libération à Fontenay, je dirais qu'il faut distinguer trois grands thèmes. Le débarquement, l'exode et les combats. Alors, le jour du débarquement, naturellement, le débarquement était très attendu par tout le monde. Dans la nuit du 6 juin 1944, tous les gens sont réveillés par le bruit incessant. Des canonnades et des avions qui passent de façon incessante pour aller bombarder partout. On distinguait dans le ciel des lueurs, des traces de balles traçantes que des Allemands qui essayaient de descendre les avions. Cela ressemblait à un véritable et énorme feu d'artifice. Le 6 juin, à Fontenay, des obus de marine sont tombés, mais sans grand dégât. Au matin du 6 juin, il n'y avait plus personne dans les rues de Fontenay. La peur s'était installée partout. Alors là, très rapidement, les gens ont creusé des tranchées pour se protéger. Des tranchées qu'ils faisaient dans leurs jardins, dans les champs, pour en faire des abris. Le 28 juin 1944, un bombardement plus important a eu lieu. Il a fait 3 morts. Il s'est passé beaucoup de temps avant que les Alliés approchent de Fontenay. Pendant cette période de libération, les Allemands réquisitionnaient les hommes pour renforcer leur défense. Mais un bon nombre de ces hommes ira se cacher dans les galeries de la mine. La population, elle, toujours de la peur des bombardements, qui étaient incessants, s'était mise à l'abri, soit à la Poudrière, soit dans les mines à la cité Tarot. À la Poudrière, il y avait environ 100 à 120 personnes. Disons que la Poudrière, c'était sous terre, peut-être à une dizaine de mètres sous terre. C'était là où la mine entreposait la poudre nécessaire à l'exploitation. À la cité Tarot, là, on descendait dans les galeries de mine. Et là, la descente à la cité Tarot, c'était très difficile. Il fallait descendre avec des échelles. La descente, elle était longue. Elle était périlleuse, notamment pour les enfants et les personnes âgées. Même certaines personnes, on les a descendues avec un bassicot. Les gens avaient apporté dans ces abris des couvertures, des matelas. Les matelas étaient tous mis côte à côte. C'était la promiscuité dans une atmosphère sombre, noire, humide et froide. Et puis avec la peur au ventre aussi, naturellement la peur au ventre. Alors de temps en temps, les hommes sortaient dans la journée pour le ravitaillement. Alors ils allaient récupérer la viande des animaux qui avaient été tués dans les champs, les vaches, les chevaux, etc., qui avaient pu être tués. Et donc ils ramenaient ça sous la mine ou à la poudrière. À la poudrière comme à la mine, on s'éclairait avec ce qu'on appelle des lampes à carbure. Ces conditions ont duré plusieurs semaines. C'était très très difficile à vivre.
Puis, changement de décor. Suite au bombardement, le village est copieusement détruit. Et va s'en suivre une obligation à l'exode pour une bonne partie de la population. Alors comment ça se passe, l'exode à Fontenay ?
Eh bien, les armées alliées avancent de plus en plus, et les combats se rapprochent, Et le 11 juillet 1944, les Allemands ordonnent à tous les habitants de quitter le village et les réfugiés de la poudrière et de la mine doivent partir aussi, hein. Non sans réticence d'ailleurs. Pour faire accélérer les choses, la poudrière, les Allemands n'hésitent pas à tirer des rafales de mitraillettes, peut-être en l'air, personne n'a été blessé, mais pour faire peur aux gens. À la mine, pour obliger les gens à sortir, parce qu'il y en avait qui voulaient y rester, eh bien, ils n'ont pas hésité à balancer des grenades dans les galeries. Malgré tout, quelques personnes sont restées à la mine, mais sinon, le village a été entièrement déserté. Alors l'exode, ça veut dire partir, ça veut dire partir tout abandonner. Pour aller où? Avec la peur, avec l'angoisse. C'était très très difficile. Alors avant le départ, les gens lâchent tous leurs animaux, les chiens, les chats, les vaches, les cochons, la volaille, les lapins, ils lâchent tout. En fait, ils ne pouvaient partir qu'avec le minimum. Alors, bien avant de partir, ce que faisaient les gens aussi, c'est qu'ils cachaient les biens qui leur paraissaient les plus précieux pour eux, à commencer par la vaisselle, l'argenterie quand il y en avait, ou d'autres objets. Eh bien, ils enterraient ça le plus souvent dans leur jardin ou dans les champs. Alors bref, il faut partir. Donc les gens partent, ils partent en exode sur les routes, en direction du sud, naturellement. Selon ce que l'on dispose, on part en charrette, en carriole, à vélo, le plus souvent à pied, et même avec des brouettes. Certains partent juste avec un sac, voire un sac à dos, pour tout bagage. Hein. En fait, on part vers l'inconnu et toujours la peur au ventre. Hein. Quand on peut, on emmène une vache qui produira du lait. Ça, c'était les cultivateurs, naturellement. Produire du lait pendant le voyage pour nourrir les enfants et tout le monde, quoi. Hormis les enfants et les personnes âgées, tout le monde marche à pied. Beaucoup auront les pieds en sang après quelques jours. Sur la route, c'est aussi très difficile. Il n'est pas rare de se faire mitrailler par l'aviation alliée à cause des convois allemands. Alors, il y a les convois allemands qui remontent au front, et puis il y a les camions allemands qui redescendent sur le sud pour aller rechercher du ravitaillement, parce qu'il fallait ravitailler les troupes, naturellement. Alors aussi, les gens ont pris soin de faire des drapeaux blancs pour se signaler aux aviateurs pour éviter d'être mitraillés. Alors sur la route, pendant l'exode, il y avait des centres d'accueil dans certains villages qui étaient traversés, où on pouvait faire une halte, notamment pour la nuit, quoi. En général, les gens étaient assez bien reçus. On leur offrait souvent à manger, souvent c'était de la soupe. Dans certains cas très rares, des personnes essayaient de tirer profit de la situation, par exemple en faisant payer de l'eau, voire des fois du pain, on va dire aussi. Hein. On voulait par exemple faire payer de l'eau pour les animaux, hein, mais cela était quand même assez rare. Le plus souvent, bien sûr, on couchait à la Belle Étoile, ou sur de la paille, sous des granges, dans les fermes. Alors, dans les centres d'accueil qu'il y avait dans certains villages, il y avait des registres sur lesquels les réfugiés inscrivaient leur nom pour marquer leur passage et pouvoir se retrouver par la suite. Il n'y avait pas de téléphone à ce moment-là, hein. Pour la plupart des réfugiés, l'exode va se terminer dans le département de l'Orne ou de la Mayenne. Pour d'autres, ce sera plus loin quand ils iront dans des familles plus éloignées, par exemple. Plus on s'éloignait du front, plus les routes étaient sûres, naturellement. Pendant ce temps de l'exode, les combats continuent.
Ces combats ont été très rudes.
Oui, les Alliés ont eu du mal à avancer. Ils n'arrivent sur Caen, à commencer à libérer Caen, que le 9 juillet 1944, plus d'un mois après le débarquement. Pour arriver à passer notre secteur, la crête de Fontenay-Saint-Martin, on va distinguer trois grandes batailles qui ont eu lieu pour la libération de ce secteur. La première est appelée l'opération Goodwood, entre le 18 et le 20 juillet 1944. Alors Goodwood, où on trouve aussi le nom Atlantique pour ce qui concerne notre secteur. Donc, dans notre secteur, ce sont les Canadiens qui sont chargés de la libération. Au terme de cette opération, Caen sera libéré définitivement le 20 juillet. mais les Alliés sont stoppés par la ligne de crête de Mai, Fontenay, Verrières, Rocancourt. Pour organiser leur défense, les Allemands ont enterré ici leurs chars sur cette crête, et de ce fait, ils ont la visibilité sur la plaine de Caen, jusqu'à Caen. Fontenay se trouve de ce fait dans une position d'un véritable bastion fortifié. L'opération Goodwood s'avère être en partie un échec, en tout cas sur notre secteur, d'un point de vue militaire. 1100 chars avaient été engagés dans cette opération. 400 ont été perdus. Donc, il y aura une seconde opération qui aura lieu à partir du 25 juillet, qu'on va appeler l'opération Spring. Les Alliés sont face à des divisions SS d'élite. Les combats sont très difficiles. Les Allemands utilisent aussi les galeries de mines existantes pour reprendre les Canadiens à revers. Les combats ici sont terrifiants. Les Canadiens vont perdre au cours d'une seule journée près de 1500 hommes, 450 tués et un peu plus de 1000 blessés. Le 25 juillet a été un mardi noir pour le régiment qu'on appelle le Black Watch. Parti de Saint-Martin à découvert à l'assaut de l'ouest de la crête de Fontenay, pour vous situer en passant près du collège actuel de Saint-Martin, ils vont être pris entre deux feux. D'un côté, les Allemands qui sont sur la crête, de l'autre côté, des Allemands qui sont encore à Mai-sur-Orne alors qu'on leur avait dit que Mai avait été libéré. Ce régiment de Black Watch, sur 386 engagés, 124 vont être tués, 120 blessés, 85 prisonniers, 57 seulement vont rentrer sains et saufs. Un petit monument édifié en septembre dernier sur le chemin entre Mai-sur-Orne et la crête de Fontenay, au lieu même des combats, illustre ce terrible événement. L'opération Spring s'achève, c'est un deuxième échec très sanglant.
Et puis, c'est la troisième tentative, l'opération Total Eyes, entre le 7 et le 8 août.
Oui, cette opération est précédée d'un bombardement massif, puisque 3462 tonnes de bombes seront larguées sur une ligne allant de Mai-sur-Orne, Fontenay, Tilly-la-Campagne, Rocancourt, Saint-Agnan, Cramigny. 3462 tonnes de bombes. L'assaut, là, cette fois, sera donné la nuit, parce que la nuit, on va priver les Allemands de la vue, l'avantage qu'ils avaient de voir les Alliés arriver. C'est cet assaut final qui permettra la libération de Mai, Fontenay, Rocancourt. Alors, un petit épisode à Fontenay. Le lieutenant-colonel Clarence Ferguson trouvera la mort avec plusieurs de ses officiers frappés au poste de commandement par un obus. On relate qu'il y a eu ici des combats corps à corps à Fontenay. Le verrou de Fontenay tombe en dernier, le 8 août 1944. C'est au cours de cette bataille que Michael Wittmann, le célèbre Allemand destructeur qui à lui seul pendant la guerre a détruit 138 chars et 132 canons, a trouvé la mort, à côté de Saint-Agnan de Cramigny. Le bilan de cette troisième opération relate 1256 pertes, dont 300 soldats auront été tués par erreur par des bombardements alliés. 150 chars auront été perdus. La bataille de la crête terminée, direction Falaise. 10 jours plus tard, c'est la fin de la poche de Falaise, et puis Paris libéré 15 jours plus tard.
Jean-Louis, pouvez-vous nous donner quelques éléments chiffrés qui donnent une idée assez précise des difficultés que les Alliés ont rencontrées dans ces batailles ici, à Fontenay?
Oui, pour se forger une idée de la difficulté et de l'acharnement de ces combats, on va rappeler par exemple Saint-André est libéré le 25 juillet, Bourguébu est libéré le 20 juillet, Fontenay est libéré le 8 août. Ifs est libéré le 20 juillet. Trois semaines pour aller de Ifs à Fontenay. Et si on va encore plus loin, certaines grandes villes, plus à l'ouest et au sud, ont été libérées avant Fontenay. Rennes est libérée le 4 août. Brest le 7 août. Laval le 6 août. Le Mans le 8 août. Alors voilà, oui, c'est pour vous donner une idée que ici, ça a été quand même très très dur. Ce que je voudrais rappeler quand même, c'est par rapport aux Canadiens qui nous ont libérés, c'est que ces Canadiens, ils étaient tous jeunes, tous volontaires, et pas aguerris au combat. Le plus jeune d'entre eux, Gérard Doré, dont on en parle parfois à la télé dans des documentaires, il avait 16 ans. Il avait triché sur son âge pour pouvoir s'engager. L'ensemble des trois batailles dans le secteur aurait fait près de 3000 morts. De tous les combats menés par les Canadiens après le débarquement, pendant toute la période de la libération, c'est ici, sur ce champ de bataille de la crête de Verrières et Fontenay, qu'ils ont perdu le plus d'hommes. C'est un triste record. Alors, souvenons-nous quand même de tout ce que nous leur devons.
Il y a de la lumière.